Bonjour à vous qui nous rejoignez, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, rendez-vous avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Et puis notre invité dans une quinzaine de minutes, c'est un grand nom de la pensée politique française. Plusieurs de ses livres sont devenus des classiques. Et dans son dernier essai, il s'attaque à l'extension des droits de l'homme dans nos sociétés. Des droits qui nous auraient fait oublier jusqu'à l'idée même du bien commun. Thèse qu'on mettra à l'épreuve de situations très concrètes comme celle du sauvetage de plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants par le navire l'Aquarius en Méditerranée. Rendez-vous tout à l'heure avec le philosophe Pierre Manon.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va commencer ce retour sur la semaine avec les mots du président. Élément de contexte, c'était mercredi dernier. Emmanuel Macron s'exprimait devant le congrès de la Mutualité française à Montpellier. Il critiquait le fétichisme du modèle social français. Il appelait à réinventer l'État-providence. Il plaidait pour une meilleure efficacité des aides sociales. Mais les mots qu'on a retenus et ceux qui ont fait polémique, ce sont ceux qu'on a découvert la veille au soir, mardi, dans une vidéo publiée par l'Élysée et qui est aussitôt devenue virale.
On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté.
Natacha, comment avez-vous reçu cette phrase, cette analyse ?
Cette analyse, oui, analyse profonde, il y a le fond et la forme. Bon, la forme, je pense, a été largement commentée. C'est une opération de communication dans laquelle Emmanuel Macron, comme à son habitude, apparaît en briseur de tabous. Alors, curieusement, ce sont toujours les mêmes tabous qu'il brise, hein, c'est-à-dire qu'il tape sur ce qui est une politique sociale, de gauche, contre les syndicats, etc. C'est toujours la même mécanique. On ne l'entend jamais briser les tabous contre les multinationales, l'évasion fiscale, la rémunération des grands patrons. Ça, c'est curieux, ça ne lui vient pas à l'esprit. Donc ça, c'est la forme. Après, sur le fond. Sur le fond, ce qu'il explique est assez conforme à son idéologie, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une idée de responsabilité individuelle qui doit permettre à chacun de s'émanciper. Tout ce qu'il oublie, c'est la définition de ce qu'est l'émancipation et la définition de ce qu'est l'aliénation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui provoque l'aliénation qui, aujourd'hui, fait que des gens sont coincés dans la pauvreté ? C'est, par exemple, le fait que aujourd'hui, nous sommes dans une société où certains sont mis dans des conditions où ils ne peuvent pas retrouver un emploi parce qu'il y a des désertifications de territoire, parce qu'il y a une tertiarisation de la société qui a détruit des emplois qui étaient ceux qui correspondaient aux compétences d'ouvriers spécialisés. Et que cela, pourquoi on a détruit ces emplois-là ? Parce qu'on a ouvert des frontières et mis en concurrence ces ouvriers avec des gens qui n'ont pas de minima sociaux, qui n'ont pas de droits sociaux, qui n'ont pas de normes environnementales. Donc la politique que lui-même accepte crée de l'aliénation et ensuite il vient se plaindre et expliquer que bon, ils ont qu'à se bouger un petit peu.
Raphaël ?
Non, mais derrière tout ça, il y a quand même un présupposé qui est assez étrange parce qu'il ne résiste pas à l'analyse des faits. On dit le modèle social français, donc le modèle de solidarité sociale français, qui n'est absolument pas parfait et qui mérite totalement d'être réformé, produit de la misère parce qu'il déresponsabilise les individus. Il faudrait un modèle plus libéral fondé sur la responsabilisation des individus. C'est ce type de modèle qui ont été adoptés dans certains pays voisins de la France et il faudrait s'intéresser au taux de misère et au taux de pauvreté, puisque tout ça est fondé sur l'argument qu'il y a 9 millions de pauvres en France, c'est-à-dire 13% en gros, en Allemagne ou en Angleterre. Est-ce qu'il y a plus ou moins de pauvres ? Et la vérité, c'est qu'en Angleterre, il y a beaucoup plus de pauvres qu'en France.
Mais l'argument du président de la République, quand il dit en France, les pauvres restent pauvres, et malgré les aides sociales...
En Angleterre, les pauvres restent pauvres. Donc il y a là une question qui dépasse la question des modèles sociaux, et simplement la décision idéologique d'Emmanuel Macron est de tout imputer au modèle de solidarité sociale français. Or, ce n'est pas étayé par des faits. Encore une fois, ce n'est pas vrai. En France, le modèle de solidarité sociale ne produit pas plus de pauvreté ou d'assignation à résidence que le modèle anglais, par exemple.
En revanche, Natacha, on pourrait se poser la question. Le problème, la pauvreté vient d'où ? Et de même, d'ailleurs, que le déficit des comptes publics. du chômage de masse. Donc la question est de savoir comment on résout cela, mais pour ça, il faut en effet dépasser un petit peu l'obsession du modèle social.
Mais la simple question du chômage n'est pas suffisante, parce qu'en Angleterre et en Allemagne, il y a un taux de chômage plus bas et un taux de pauvreté plus haut.
Voilà, c'est bien là où j'allais venir. C'est que si la réponse au problème du chômage de masse, c'est de dire qu'on va autoriser les jobs zéro heure comme en Angleterre, c'est-à-dire des contrats où il n'y a pas une heure qui est garantie par mois, et donc c'est le travailleur qui doit lui-même quêter et attendre près de son téléphone la journée entière pour savoir s'il aura la possibilité de travailler pendant une heure dans la journée ou dans la semaine, je pense que ce ne sera pas tout à fait un progrès. Et donc, ça nécessite, comme je le disais, de réfléchir à une échelle plus vaste sur la façon dont on a organiser le chômage et la production sur l'ensemble de la planète à travers la globalisation.
Mais est-ce que les aides sociales en France sont faites pour résoudre le problème de la pauvreté ?
Alors, tout le problème du discours d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle des minima sociaux. Il ne parle pas, par exemple, de la protection chômage. Il parle des minima sociaux, c'est-à-dire quoi ? Le minimum vieillesse, le minimum handicap ? Mais en quoi est-ce censé être efficace? Ce n'est pas une aide efficace, c'est une aide qui empêche des gens de sombrer dans la misère. Ce n'est pas fait pour les sortir.
C'est un matelas social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le système ne fonctionne pas, quand l'économie ne produit pas assez d'emplois, quand des gens sont confrontés à l'inégalité exponentielle de la société telle qu'on la connaît, eh bien, les aides sociales permettent de ne pas sombrer dans l'immense misère. Et c'est ça ce qui est visé par ses propos. Et donc, il y a un problème. Évidemment qu'il y a une question à poser, parce que évidemment que l'assignation à résidence est insupportable. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à chaque fois qu'on pose cette question, c'est toujours pour aller dans un sens de moins-disance envers la solidarité sociale. Et jamais pour dire, ok, refondons. Mais l'allocation unique, par exemple, qui est discutée, pourquoi ne pas alors clairement poser la question d'un revenu de base, mais qui soit un revenu d'existence décent, pas simplement la fusion des minima sociaux existants.
Le seul point sur lequel on peut faire crédit à Emmanuel Macron, c'est qu'à un moment donné dans son discours, il évoque la question de l'éducation, qui en effet est centrale. Parce que si on veut vraiment s'attaquer à cette aliénation et à l'assignation à résidence sociale, une des solutions est aussi de faire en sorte que l'école retrouve ce qu'elle n'a jamais eu parfaitement, mais qu'elle avait un peu plus qu'aujourd'hui, à savoir la capacité à sauver des gens et à produire un ascenseur social. Ça n'a jamais été formidable, mais nous sommes dans une phase.
On peut aussi
pire
le reconnaître
encore.
Un deuxième point, c'est qu'il a annoncé des mesures concrètes qui, certes, ne sont pas une révolution du système social, mais des mesures concrètes qui sont bénéfique.
Oui, enfin, le zéro reste à charge, on l'attendait, on se demandait quand ça allait arriver, c'était une promesse de campagne.
En tout cas, c'est lui qui l'a annoncé, il a eu raison de le faire, et d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est que vu qu'il annonçait enfin une mesure sociale qui est réellement peut changer la vie des gens qui en bénéficieront, eh bien, auparavant, il est obligé de glisser cette vidéo pour dire aux gens « Attention, je ne deviens pas socialiste quand même ».
Mais ce qui vous a frappé aussi, Raphaël, dans l'actualité de la semaine, c'est qu'au moment où Emmanuel Macron parlait de ce pognon de dingue dépensé dans des minima sociaux, il y avait l'affaire de la rémunération de l'ex-PDG de Carrefour, Georges Plassat. Rémunération qui en a choqué plus d'un, 13 millions d'euros, 500 000 euros de retraite complémentaire par an. Au moment où l'entreprise annonce un plan social et des licenciements.
C'était la une de Libération de vendredi, où ils ont eu raison de reprendre les mots sur « pognon de dingue ». Et profondément, ça pose la question de la société dans laquelle nous vivons. Parce que ce n'est pas être gauchiste que de dire cela. Il y a eu, sur ces 30-40 dernières années, une croissance exponentielle des inégalités de revenus. Quand on imagine simplement que M. Morgan, de la banque Morgan, disait que des inégalités supérieures à 1 à 15 dans une entreprise, y compris une banque, c'est là le maximum qu'on peut autoriser pour que le capitalisme fonctionne bien sans révolte sociale, et qu'on regarde aujourd'hui que dans un groupe de grande distribution qui par ailleurs licencie des milliers de salariés, on parle de 17 millions de revenus avec des primes accordées. Et c'est profondément, on pourra ensuite faire tous les barrages qu'on veut, toutes les indignations morales qu'on veut, c'est la source de la vague populiste qui aujourd'hui s'abat sur l'Europe.
Natacha. On peut ajouter différentes choses. D'abord, le problème intrinsèque qui est le fait que les membres des conseils d'administration de ces grandes entreprises sont en fait se votent leurs primes les uns aux autres puisque c'est un monde totalement endogame. Deuxième point, on nous vend cela comme une nécessité à l'ère de la mondialisation. Là encore, elle a bon dos, la mondialisation. Elle permet de dire, mais mon Dieu, il serait parti à l'étranger, forcément. Pensez-vous vraiment que Georges Plassat serait parti à l'étranger? Non. Troisième point, tout le capitalisme n'est pas forcément semblable à celui-là. Il y a différentes manières de faire fonctionner et nous avons en France une spécialité désormais qui est le capitalisme sans risque, c'est-à-dire des gens qui sont des patrons salariés, qui n'ont jamais monté une entreprise, qui n'ont jamais pris des risques sur leur denier propre et qui sont payés des fortunes quand ils échouent. Ouais, souvenez-vous d'Alcatel, souvenez-vous d'Alstom, c'est-à-dire qu'en plus la France a le génie de détruire son outil industriel totalement.
À l'origine, le libéralisme, c'était l'idée qu'on allait rétribuer le risque pris. Et là, on est entré dans une ère qui est celui du « too big to risk ». C'est-à-dire que le risque
en
n'est
français,
même...
Mais aussi parce que ces rémunérations-là permettent d'augmenter les dividendes aux actionnaires. C'est-à-dire que c'est un jeu entre les patrons et les actionnaires, puisque ça valorise le cours boursier et donc ça permet plus de dividendes pour ceux qui ont voté cela.
Le grand face-à-face continue avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann.
France Inter. Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Ils n'ont ni Dieu ni maître, à part maître Canter. Je suis l'arbre de leur laïcité avant qu'on le mette en terre. Mariam est une fémène, tatouée for God sur les mamelles. Où était-elle dans l'affaire de la crèche, séquestrée chez Madame Fourès? Ah!
Autre polémique cette semaine, d'abord lancée par des membres de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, et puis la question a fini par s'imposer dans le débat public. Le rappeur Medine doit-il pouvoir se produire en concert au Bataclan à l'automne prochain? La liste est longue de ce que certains lui reprochent, le titre d'un album de 2005, Jihad, des paroles de chansons, la fréquentation de Tariq Ramadan, et je pourrais continuer longtemps, des responsables du mouvement national, des républicains, de la République En Marche et du Parti Socialiste ont dit leur indignation. Écoutez ce que leur répondait le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale.
Il se trouve que ceux qui faisaient vivre le Bataclan en 2015, ceux qui aujourd'hui le font vivre et l'ont remonté, ont choisi librement la programmation que vous critiquez. Je dis donc qu'en la matière, la loi est claire. Incitation à la haine raciale ou trouble manifeste à l'ordre public. Voilà les deux seuls fondements qui pourrait justifier une mesure. Voilà les deux seuls fondements qui pourraient justifier une mesure. Nous respecterons donc scrupuleusement et la liberté d'expression et la loi.
Édouard Philippe, pendant la séance de questions au gouvernement, Natacha, vous vouliez revenir sur cette affaire. Est-ce que vous seriez choqué que Medine se produise au Bataclan?
Alors, distinguons bien les choses. Je trouve ça choquant et pour autant, je pense qu'il ne faut surtout pas l'interdire. Mais je trouve ça choquant, comme à mon avis beaucoup de gens, et je me moque de savoir qui a remarqué en premier cette programmation que je trouve d'un mauvais goût rare. C'est-à-dire que l'idée que ça viendrait forcément de ce qu'on appelle la fachosphère, entité non définie, ce qui invaliderait le débat, me semble problématique parce que ça ne nous permet pas de réfléchir réellement à tout ce qui nous lie. C'est-à-dire qu'il y a une liberté d'expression nécessaire. En revanche, je récuse l'idée des défenseurs de Medine que tout cela n'aurait aucune importance, que ce ne serait pas grave, car ce garçon, et on le sait, il est revenu sur les propos de 2005, de 2015, etc. Il s'est amendé. Mais quand on écoute ces textes, ce n'est pas anodin, sa présence au Bataclan, et il y a des symboles qui sont malsains.
Mais
pour autant, c'est fait.
Édouard Philippe, à savoir que ce sont les programmateurs du Bataclan qui font revivre ce lieu.
C'est à eux de décider.
La phrase d'Édouard Philippe est parfaitement juste. Du point de vue légal, on vit dans un état de droit. Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, n'a pas son mot à dire. Il est obligé de répondre à une polémique, mais il n'a pas son mot à dire sur la programmation d'une salle privée tant qu'il n'y a pas une loi qui est violée. Et donc, le droit est hyper clair là-dessus. Après, se pose la question, moi, ce n'est pas une polémique qui me fascine, hein, mais se pose la question de la décence. Effectivement, en écoutant...
De la décence ?
Ouais, de la décence. Il y a une question de décence qui se pose. C'est-à-dire que les paroles de Medine, en les écoutant, moi, elles me choquent. Voilà, elles me choquent et je ne comprends pas pourquoi vouloir a priori absolument les chanter dans le lieu même du martyr de ce genre. Et on, quand on me dit que le Bataclan est une salle de concert et que c'est comme ça que ça doit rester, c'est pas vrai. C'est pas juste une salle de concert, le Bataclan. Il se trouve que c'est un lieu éminemment symbolique, politique, éthique, désormais, et que ça peut choquer à juste titre.
Natacha. Mais derrière cela, il y a un problème beaucoup plus vaste qui est celui de notre capacité à affronter les différences de vision de la société, les différences de culture. Quand on écoute les textes de Médine, quels qu'ils soient, hein, il y en a qui parlent de la guerre d'Algérie, il y en a qui parlent de, bon, évidemment des banlieues, etc. On entend en permanence cette idée qu'il y aurait eux contre nous. C'est-à-dire eux l'Occident, eux les Blancs, eux ceux qui ont colonisé. Et on est en permanence dans cette rhétorique post-coloniale qui détruit le lien social au lieu de le construire. Alors il a parfaitement le droit, et très bien. Moi, ce qui m'intéresse...
Et lui-même
c'est...
dit qu'avoir choisi comme titre pour un album de 2005, Jihad, c'est quelque chose qu'il ne referait
non,
pas
ça,
aujourd'hui.
Non, bien sûr, c'est ce que je disais. Il est revenu sur tout cela, bien sûr. Il a évolué, mais pour autant, quand on écoute ses textes actuels, il y a une vision de la société... qui est parfaitement légitime à exprimer, mais qui nous raconte qu'une partie de la jeunesse française est en train de faire sécession. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. La question est, Médine a un public et les salles au Bataclan, Bataclan est complet.
D'accord, ouais, je m'exprime juste sur le Bataclan, parce que le Bataclan me concerne. Ensuite, qu'un rappeur ait une vision quelconque et qu'il y en ait d'autres qui aient une vision opposée, honnêtement, je pense qu'en France, moi, je réponds à cette question juste parce que le Bataclan est en jeu. Sinon, le reste des chanteurs qui ont une vision conflictuelle de la société. Natacha, il y en a toujours eu. C'est une grande tradition. Et aujourd'hui, je pense qu'on, de par les attentats terroristes, on est extrêmement stressé. Mais simplement, des chanteurs provocateurs en France, c'est une immense tradition française. Simplement,
est-ce seulement de la provocation ? Enfin, vous voyez, c'est cette idée que c'est très facile le mot provocation.
Non, mais d'accord. Mais enfin, on va pas parler des heures du chanteur Médine qui, s'il ne se produisait pas au Bataclan, nous intéresserait fort peu.
Ce chapitre,
non, c'est intéressant.
Et
l'histoire
n'est pas écrite et on ne sait pas donc si il montera sur la scène du Bataclan.
En tout cas, rien légalement ne lui interdira.